Othello, acte 3, scène 1. Devant le château, entre Cassio et des musiciens. Cassio. Jouez ici, mes maîtres, je vous récompenserai de vos peines. Quelque chose de bref, et puis souhaitez le bonjour au général. Musique. Entre le clown. Le clown. Dites donc, mes maîtres, est-ce que vos instruments ont été à Naples, qu'ils parlent ainsi du nez? Premier musicien. Comment, monsieur, comment? Le clown. Est-ce là, je vous prie, ce qu'on appelle des instruments à vent? Premier musicien. Par Dieu, oui, monsieur. Le clown. Ah, et c'est par là que pend la queue? Premier musicien. Où voyez-vous pendre une queue, monsieur? Le clown. Par Dieu, à bien des instruments à vent que je connais. Mais, mes maîtres, voici de l'argent pour vous. Et le général tend votre musique qu'il vous demande, au nom de votre dévouement à tous, de ne plus faire de bruit avec elle. Premier musicien. Eh bien, monsieur, nous cessons. Le clown. Si vous avez de la musique qui puisse ne pas s'entendre, vous pouvez continuer. Mais pour celle qui s'entend, comme on dit, le général ne s'en soucie pas beaucoup. Premier musicien. Nous n'avons pas de musique comme celle dont vous parlez, monsieur. Le clown. Alors remettez vos flûtes dans vos sacs, car je m'en vais. Partez. Évaporez-vous. Allons. Les musiciens sortent. Cassio au clown. Écoute, mon honnête ami. Le clown. Non. Je n'écoute pas votre honnête ami. Je vous écoute. Cassio. De grâce, suspendez-la-t-il. Voici une pauvre pièce d'or pour toi. Si la dame qui accompagne la femme du général est levée, dis-lui qu'un nommé Cassio implore d'elle la faveur d'un instant d'entretien. Veux-tu? Le clown. Elle est levée, monsieur. Si elle veut venir ici, il est vraisemblable que je lui notifierai votre désir. Cassio. Fais, mon bon ami. Le clown sort. Entre Iago. Heureuse rencontre, Iago. Iago. Vous ne vous êtes donc pas couché? Cassio. Oh non, il faisait jour quand nous nous sommes quittés. J'ai pris la liberté, Iago, d'envoyer quelqu'un à votre femme. J'ai à lui demander de vouloir bien me procurer accès auprès de la vertueuse Desdemona. Iago. Je vais vous l'envoyer sur le champ, et je trouverai moyen d'attirer le mort à l'écart pour que vous puissiez causer de vos affaires avec plus de liberté. Cassio. Je vous en remercie humblement. Iago sort. Je n'ai jamais connu un Florentin plus aimable et plus honnête. Entre Emilia. Emilia. Bonjour, mon lieutenant. Je suis fâchée de votre mésaventure, mais tout va s'arranger. Le général et sa femme sont en train d'en causer, et elle parle pour vous vaillamment. Le mort répond que celui que vous avez blessé a dans Chypre une haute réputation et de hautes alliances, et que, par une sainte prudence, il est obligé de vous refuser. Mais il proteste qu'il vous aime et qu'il n'a pas besoin d'autre plaidoyer que ses sympathies pour saisir aux cheveux la première occasion de vous remettre en place. Cassio. Pourtant, je vous en supplie, si vous le jugez convenable ou possible, donnez-moi l'avantage d'un court entretien avec Desdemona seule. Emilia. Entrez, je vous prie. Je vais vous mettre à même de lui parler à cœur ouvert. Cassio. Je vous suis bien obligé. Ils disparaissent dans le château. Scène 2. Dans le château, entre Othello, Iago et des gentilshommes. Othello remettant des papiers à Iago. Ces lettres, Iago, donnez-les au pilote et chargez-le de présenter mes devoirs au Sénat. Après quoi, je vais visiter les travaux. Vous viendrez m'y rejoindre. Iago. Bien, mon bon seigneur, je n'y manquerai pas. Othello. Messieurs, allons voir ces fortifications. Les gentilshommes. Nous escorterons votre seigneurie. Ils sortent. Scène 3. Le jardin du château entre Desdemona, Cassio et Emilia. Desdemona. Sois sûr, bon Cassio, que je ferai en ta faveur tout mon possible. Emilia. Faites, bonne madame. Je sais que cette affaire tourmente mon mari comme si elle lui était personnelle. Desdemona. Oh, c'est un honnête garçon. N'en doutez pas, Cassio. Je réussirai à vous rendre mon mari et vous aussi bons amis qu'auparavant. Cassio. Généreuse, madame, quoi qu'il advienne de Michel Cassio, il ne sera jamais que votre loyal serviteur. Desdemona. Je le sais, vous en remercie. Vous aimez Monseigneur, vous le connaissez depuis longtemps. Soyez persuadé que dans son éloignement de vous, il ne gardera que la distance de la politique. Cassio. Oui, madame, mais cette politique-là peut durer si longtemps, elle peut s'alimenter d'un régime si subtil et si fluide, ou se soutenir par la force des choses de telle sorte que, moi absent et ma place remplie, le général oublie mon dévouement et mes services. Desdemona. Ne crains pas cela. Ici, en présence d'Emilia, je te garantis ta place. Sois sûr que quand je fais un vœu d'amitié, je l'accomplis jusqu'au dernier article. Mon mari n'aura pas de repos. Je l'apprivoiserai d'insomnie. Je l'impatienterai de paroles. Son lit lui fera l'effet d'une école. Sa table d'un confessionnal. Je mêlerai à tout ce qu'il fera la supplique de Cassio. Donc sois gai, Cassio, car ton avocat mourra plutôt que d'abandonner ta cause. Entre Otello et Iago, ils se tiennent quelque temps à distance. Emilia. Madame, voici mon seigneur. Cassio à Desdemona. Madame, je vais prendre congé de vous. Desdemona. Ah, restez, vous m'entendrez parler. Cassio. Pas maintenant, madame, je me sens mal à l'aise et impuissant pour ma propre cause. Desdemona. Bien, bien, faites à votre guise. Sors Cassio. Iago. Ah, je n'aime pas cela. Otello. Que dis-tu? Iago. Rien, monseigneur. Ou si. Je ne sais quoi. Otello. N'est-ce pas Cassio qui vient de quitter ma femme? Iago. Cassio, monseigneur? Non, assurément. Je ne puis croire qu'il se déroberait ainsi comme un coupable en vous voyant venir. Otello. Je crois que c'était lui. Desdemona. Eh bien, monseigneur, je viens de causer ici avec un solliciteur, un homme qui languit dans votre déplaisir. Otello. De qui voulez-vous parler? Desdemona. Et de votre lieutenant Cassio. Mon bon seigneur, si j'ai assez de grâce ou d'influence pour vous émouvoir, veuillez dès à présent l'admettre à récipiscence. Car, s'il n'est pas vrai que cet homme vous aime sincèrement et que sa faute est une erreur involontaire, je ne me connais pas en physionomie honnête. Je t'en prie, rappelle-le. Otello. C'est donc lui qui vient de partir d'ici? Desdemona. Oui, vraiment. Mais si abattu qu'il m'a laissé une partie de son chagrin et que j'en souffre avec lui. Cher amour, rappelle-le. Otello. Pas maintenant, ma douce Desdemona. Dans un autre moment. Desdemona. Mais ce sera bientôt. Otello. Le plus tôt possible, ma charmante, pour vous plaire. Desdemona. Sera-ce ce soir au souper? Otello. Non, pas ce soir. Desdemona. Demain au dîner, alors? Otello. Je ne dînerai pas chez moi. Je vais à un repas d'officier à la citadelle. Desdemona. Alors demain soir, ou mardi matin, ou mardi après-midi, ou mardi soir, ou mercredi matin. Je t'en prie, fixe une époque, mais qu'elle ne dépasse pas 3 jours. Vrai, il est bien pénitent. Et puis, aux yeux de notre raison vulgaire, n'était la guerre qui exige, dit-on, qu'on fasse exemple même sur les meilleurs. Son délit est tout au plus une faute qui mérite une réprimande privée. Quand reviendra-t-il? Dites-le-moi, Otello. Je cherche dans mon âme ce que, si vous me le demandiez, je pourrais vous refuser ou hésiter autant à vous accorder. Quoi? Ce Michel Cassio qui vous accompagnait dans vos visites d'amoureux et qui si souvent, lorsque j'avais parlé de vous défavorablement, prenait votre parti. Faut-il tant d'efforts pour le ramener à vous? Croyez-moi, je pourrais faire beaucoup. Otello. Assez, je te prie. Qu'il revienne quand il voudra. Je ne veux rien te refuser. Desdemona. Comment? Mais ceci n'est point une faveur. C'est comme si je vous priais de mettre vos gants, de manger des mets nourrissants ou de vous tenir chaudement, comme si je vous sollicitais de prendre un soin particulier de votre personne. Oh, quand je vous demanderai une concession, dans le but d'éprouver réellement votre amour, je veux qu'elle soit importante, difficile et périlleuse à accorder. Otello. Je ne te refuserai rien, mais toi, je t'en conjure, accorde-moi la grâce de me laisser un instant à moi-même. Desdemona. Vous refuserai-je? Non. Au revoir, monseigneur. Otello. Au revoir, ma Desdemona. Je vais te rejoindre à l'instant. Desdemona. Viens, Emilia. À Otello. Qu'il soit fait au gré de vos caprices. Quel qu'il soit, je suis obéissante. Elle sort avec Emilia. Otello. Excellente créature. Que la perdition s'empare de mon âme si je ne t'aime pas. Va, quand je ne t'aimerai plus, ce sera le retour du chaos. Iago. Mon noble seigneur, Othello. Que dis-tu, Iago? Iago. Est-ce que Michel Cassio, quand vous faisiez votre cour à madame, était instruit de votre amour? Othello. Oui, depuis le commencement jusqu'à la fin. Pourquoi le demandes-tu? Iago. Mais pour la satisfaction de ma pensée, je n'y mets pas plus de malice. Othello. Et quelle est ta pensée, Iago? Iago. Je ne pensais pas qu'il eût été en relation avec elle. Othello. Aussi, même il était bien souvent l'intermédiaire entre nous. Iago. Vraiment? Othello. Vraiment? Oui, vraiment. Aperçois-tu là quelque chose? Est-ce qu'il n'est pas honnête? Iago. Honnête, monseigneur? Othello. Honnête, oui, honnête. Iago. Monseigneur, pour ce que j'en sais. Othello. Qu'as-tu donc dans l'idée? Iago. Dans l'idée, monseigneur? Othello. Dans l'idée, monseigneur? Par le ciel, il me fait écho, comme s'il y avait dans son esprit quelque monstre trop hideux pour être mis au jour. Tu as une arrière-pensée. Je viens à l'instant de t'entendre dire que tu n'aimais pas cela. C'était quand Cassio a quitté ma femme. Qu'est-ce que tu n'aimais pas? Puis, quand je t'ai dit qu'il était dans ma confidence, pendant tout le cours de mes assiduités, tu as crié « Vraiment ?» Et tu as contracté et froncé le sourcil comme si tu avais enfermé dans ton cerveau quelque horrible conception. Si tu m'aimes, montre-moi ta pensée. Iago. Monseigneur, vous savez que je vous aime. Othello. Je le crois. Et comme je sais que tu es plein d'amour et d'honnêteté, que tu pèses tes paroles avant de leur donner le souffle, ces hésitations de ta part m'effraient d'autant plus. J'ai un maroufle faux et déloyal, de telles choses sont des grimaces habituelles, mais chez un homme qui est juste, ce sont des dénonciations secrètes qui fermentent d'un cœur impuissant à contenir l'émotion. Iago. Pour Michel Cassio, j'ose jurer que je le crois honnête. Othello. Je le crois aussi. Iago. Les hommes devraient être ce qu'ils paraissent, ou plutôt ciel, qu'aucun d'eux ne puisse paraître ce qu'il n'est pas. Othello. Certainement, les hommes devraient être ce qu'ils paraissent. Iago. Eh bien, alors je pense que Cassio est un honnête homme. Othello. Non, il y a autre chose là-dessous. Je t'en prie, dis-moi comment ta pensée même, ce que tu rumines, et exprime ce qu'il y a de pire dans tes idées, parce que les mots ont de pire. Iago. Mon bon seigneur, pardonnez-moi. Je suis tenu envers vous à tous les actes de déférence. Mais je ne suis pas tenu à ce dont les esclaves mêmes sont exemptés. Révélez mes pensées, eh bien, supposez qu'elles soient viles et fausses. Quel est le palais où jamais chose immonde ne s'insinue? Quel est le cœur si pur où jamais d'iniques soupçons n'ont ouvert d'assises et siégé à côté des méditations les plus équitables? Othello. Iago, tu conspires contre ton ami. Si croyant qu'on lui fait tort, tu laisses son oreille étrangère à tes pensées. Iago, je vous en supplie. Voyez-vous, je puis être injuste dans mes suppositions, car, je le confesse, c'est une infirmité de ma nature de flairer partout le mal, et souvent ma jalousie imagine des fautes qui ne sont pas. Je vous en conjure, donc, n'allez pas prendre avis d'un homme si hasardeux dans ses conjectures et vous créer un tourment de ses observations vagues et incertaines. Il ne sied pas à votre repos, à votre bonheur, ni à mon humanité, à ma probité, à ma sagesse, que je vous fasse connaître mes pensées. Othello. Que veux-tu dire? Iago. La bonne renommée pour l'homme et pour la femme, mon cher seigneur, est le joyau suprême de l'âme. Celui qui me vole ma bourse me vole une vétille. C'est quelque chose, ce n'est rien. Elle était à moi, elle est à lui, elle a été possédée par mille autres. Mais celui qui me filoute ma bonne renommée me dérobe ce qui ne l'enrichit pas et me fait pauvre vraiment. Othello. Par le ciel, je veux connaître ta pensée. Iago. Vous ne le pourriez pas quand mon cœur serait dans votre main, et vous n'y parviendrez pas tant qu'il sera en mon pouvoir. Othello. Ah! Iago. Oh, prenez garde, monsieur, à la jalousie. C'est le monstre aux yeux verts qui produit l'aliment dont il se nourrit. Ce cocu vit en joie qui, certain de son sort, n'aime pas celle qui le trompe. Mais, oh, quelle damnée minute il compte, celui qui raffole, mais doute, celui qui soupçonne, mais aime éperdument. Othello. Oh, misère! Iago. Le pauvre qui est content est riche à foison, Mais la richesse sans borne est plus pauvre que l'hiver pour celui qui craint toujours de devenir pauvre. Cieux cléments, préservez de la jalousie les âmes de toute ma tribu. Hôtel, allons, à quel propos ceci? Crois-tu que j'irai me faire une vie de jalousie pour suivre incessamment tous les changements de lune à la remorque de nouveaux soupçons? Non, pour moi, être dans le doute, c'est être résolu. Échange-moi donc contre un bouc, le jour où j'occuperai mon âme de ces soupçons exagérés et creux qu'implique ta conjecture. On ne me rendra pas jaloux en disant que ma femme est jolie, friande, aime la compagnie, a le parler libre, chante, joue et danse bien. Là où est la vertu, ce sont autant de vertus nouvelles. Ce n'est pas non plus la faiblesse de mes propres mérites qui me fera concevoir la moindre crainte, le moindre doute sur sa fidélité, car elle avait des yeux et elle m'a choisi. Non, Iago, avant de douter, je veux voir. Après le doute, la preuve, et après la preuve, mon parti est pris. Adieu à la fois l'amour et la jalousie. Iago, j'en suis charmé, car je suis autorisé maintenant à vous montrer mon affection et mon dévouement pour vous avec moins de réserve. Donc, puisque j'y suis tenu, recevez de moi cette confidence. Je ne parle pas encore de preuve. Veillez sur votre femme. Observez-la bien avec Cassio. Portez vos regards sans jalousie, comme sans sécurité. Je ne voudrais pas que votre franche et noble nature fût victime de sa générosité même. Veillez-y. Je connais bien les mœurs de notre contrée. À Venise, les femmes laissent voir au ciel les fredaines qu'elles n'osent pas montrer à leur mari. Et pour elles, le cas de conscience, ce n'est pas de s'abstenir de la chose, c'est de la tenir cachée. Hôtel, est-ce là ton avis ? Iago. Elle a trompé son père en vous épousant, et c'est quand elle semblait trembler et craindre vos regards qu'elle les aimait le plus. Hôtel. C'est vrai. Iago. Eh bien, concluez alors. Celle qui, si jeune, a pu jouer un pareil rôle et tenir les yeux de son père comme sous le chaperon d'un faucon, car il a cru qu'il y avait magie. Mais je suis bien blâmable. J'implore humblement votre pardon pour vous trop aimer. Hôtel. Je te suis obligé à tout jamais. Iago. Je le vois. Ceci a un peu déconcerté vos esprits. Hôtel. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Iago. Sur ma foi, j'en ai peur. Vous considérerez, j'espère, ce que je vous ai dit comme émanant de mon affection. Mais je vois que vous êtes ému. Je dois vous prier de ne pas donner à mes paroles une conclusion plus grave, une portée plus large que celle du soupçon. Hôtel. Non, certes. Iago. Si vous le faisiez, monseigneur, mes paroles obtiendraient un succès odieux auquel mes pensées n'aspirent pas. Cassio est mon digne ami. Monseigneur, je vois que vous êtes ému. Hôtel. Non, pas très ému. Je ne pense pas que Desdemona ne soit pas honnête. Iago. Qu'elle vive longtemps ainsi, et puissiez-vous vivre longtemps à la croire-t-elle? Hôtel. Et cependant, comme une nature dévoyée, Iago. Oui, voilà le point. Ainsi, à vous parler franchement, avoir refusé tant de parties qui se proposaient et qui avaient avec elles toutes ces affinités de patrie, de race et de sang, dont tous les êtres sont naturellement si avides. Cela décèle un goût bien corrompu, une affreuse dépravation, des pensées dénaturées. Mais, pardon, ce n'est pas d'elle précisément que j'entends parler. Tout ce que je puis craindre, c'est que, son goût revenant à des inclinations plus normales, elle ne finisse par vous comparer aux personnes de son pays et, peut-être, par se repentir. Hôtel. Adieu, adieu. Si tu aperçois du nouveau, fais-le-moi savoir. Mets ta femme en observation. Laisse-moi, Iago. Iago. Monseigneur, je prends congé de vous. Il va pour s'éloigner. Hôtel. Pourquoi me suis-je mariée? Cet honnête garçon, à coup sûr, en voit et en sait plus, beaucoup plus qu'il n'en révèle. Iago, revenant. Monseigneur, je voudrais pouvoir décider votre honneur à ne pas sonder plus avant cette affaire. Laissez agir le temps. Il est bien juste que Cassio reprenne son emploi, car, assurément, il le remplit avec une grande habileté. Pourtant, s'il vous plaît de le tenir quelque temps encore en suspens, vous pourrez juger l'homme et les moyens qu'il emploie. Vous remarquerez si votre femme insiste sur sa rentrée au service par quelques vives et pressantes réclamations. Bien des choses peuvent se voir par là. En attendant, croyez que je suis exagéré dans mes craintes, comme j'ai de bonnes raisons pour craindre de l'être. Et laissez-la entièrement libre. J'en conjure votre honneur. Hôtel. Ne doute pas de ma modération. Iago. Encore une fois, je prends congé de vous. Il sort. Othello. Ce garçon est d'une honnêteté excessive, et il connaît par expérience tous les ressorts des actions humaines. Ah, mon oiseau, si tu es rebelle au fauconnier, quand tu serais attaché à toutes les fibres de mon cœur, je te chasserai dans un sifflement, et je t'abandonnerai au vent pour chercher ta proie au hasard. Peut-être parce que je suis noire, et que je n'ai pas dans la conversation les formes souples des intrigants, ou bien parce que j'incline vers la vallée des années. Oui, peut-être pour si peu de choses, elle est perdue. Je suis outragée, et la consolation qui me reste, c'est de la mépriser. Oh, malédiction du mariage, que nous puissions appeler nôtres ces délicates créatures et non pas leurs appétits. J'aimerais mieux être un crapaud et vivre des vapeurs d'un cachot que de laisser un coin dans l'être que j'aime à l'usage d'autrui. Voilà pourtant le fléau des grands. Ils sont moins privilégiés que les petits. C'est là une destinée inévitable comme la mort. Le fléau cornu nous est réservé fatalement dès que nous prenons vie. Voici Desdemona qui vient. Entre Desdemona et Emilia. Si elle me trompe, oh, c'est que le ciel se moque de lui-même. Je ne veux pas le croire. Desdemona. Eh bien, mon cher Othello, votre dîner, les hobles insulaires, par vous inviter, attendent votre présence. Othello. Je suis dans mon tort. Desdemona. Pourquoi votre voix est-elle si défaillante? Est-ce que vous n'êtes pas bien? Othello. J'ai une douleur au front, ici. Desdemona. C'est sans doute pour avoir trop veillé. Cela se passera. Laissez-moi vous bander le front avec ceci. Dans une heure, tout ira bien. Elle lui met son mouchoir autour du front. Othello. Votre mouchoir est trop petit. Il défait le mouchoir qui tombe à terre. Ne vous occupez pas de ça. Venez, je vais avec vous. Desdemona. Je suis bien fâchée que vous ne soyez pas bien. Sortent Desdemona et Othello. Emilia, ramassant son mouchoir. Je suis bien aise d'avoir trouvé ce mouchoir. C'est le premier souvenir qu'elle a eu du mort. Mon moussa de mari m'a 100 fois cajolée pour que je le vole, mais elle aime tant ce gage, car l'autre l'a conjuré de le garder toujours, qu'elle le porte sans cesse sur elle pour le baiser lui parler. J'en ferai ouvrir un pareil que je donnerai à Iago. Ce qu'il en fera, le ciel le sait, mais pas moi. Je ne veux rien que satisfaire sa fantaisie. Entre Iago. Iago. Eh bien, que faites-vous seul ici? Emilia. Ne me grondez pas, j'ai quelque chose pour vous. Iago. Quelque chose pour moi? C'est une chose fort commune. Emilia. Ha! Iago. Que d'avoir une femme sotte. Emilia. Oh, est-ce là tout? Que voulez-vous me donner à présent pour certains mouchoirs? Iago. Quel mouchoir? Emilia. Quel mouchoir? Eh, mais celui qu'Othello offrit en premier présent à Desdemona, et que si souvent vous m'avez dit de voler. Iago. Tu le lui as volé? Emilia. Non, ma foi, elle l'a laissé tomber par négligence, et par bonheur, comme j'étais là, je l'ai ramassé. Tenez, le voici. Elle lui montre le mouchoir. Iago. Voilà une bonne fille, donne-le-moi. Emilia. Qu'en voulez-vous faire pour m'avoir si instamment pressée de le dérober? Iago. Escamotant le mouchoir. Eh bien, que vous importe? Emilia. Si ce n'est pas pour quelques achérieux, rendez-le-moi. Pauvre dame, elle deviendra folle quand elle ne le trouvera plus. Iago. Faites comme si vous ne saviez rien. J'ai l'emploi de ceci. Allez, laissez-moi. Emilia sort. Je veux perdre ce mouchoir chez Cassio et le lui faire trouver. Des babioles légères comme l'air sont pour les jaloux des confirmations aussi fortes que des preuves d'écriture sainte. Ceci peut faire quelque chose. Le mort change déjà sous l'influence de mon poison. Les idées funestes sont, par leur nature, des poisons qui d'abord font à peine sentir leur mauvais goût, mais qui, dès qu'ils commencent à agir sur le sang, brûlent comme des mines de soufre. Je ne me trompais pas, tenez, le voici qui vient. Ni le pavot, ni la mandragore, ni tous les sirops narcotiques du monde ne te rendront jamais ce doux sommeil que tu avais hier. Entre Othello. Othello. Oh, oh, fausse envers moi, envers moi! Iago. Allons, qu'avez-vous, général? Ne pensez plus à cela. Othello. Arrière, va-t'en! Tu m'as mis sur la roue. Ah, je le jure, il vaut mieux être trompé tout à fait que d'avoir le moindre soupçon. Iago. Qu'y a-t-il, monseigneur? Othello. Quel sentiment avais-je des heures de luxure qu'elle me volait? Je ne le voyais pas, je n'y pensais pas, je n'en souffrais pas. Je dormais bien chaque nuit. J'étais libre et joyeux. Je ne retrouvais pas sur ses lèvres les baisers de Cassio. Que celui qui est volé ne s'aperçoive pas du larcin, qu'il n'en sache rien, et il n'est pas volé du tout.
Iago, je suis fâché d'entendre ceci. Othello, j'aurais été heureux quand le camp tout entier, jusqu'au dernier pionnier, aurait goûté son corps charmant, si je n'en avais rien su.
Oh, maintenant pour toujours, adieu l'esprit tranquille, adieu le contentement, adieu les troupes empanachées, les grandes guerres qui font de l'ambition une vertu. Oh, adieu, adieu le coursier qui hennit, et la stridente trompette, et l'encourageant tambour, et le fifre assourdissant. Adieu la bannière royale, et toute la beauté, l'orgueil, la pompe et l'attirail de la guerre glorieuse. Et vous, instruments de guerre, dont les gorges rudes contrefont les clameurs redoutées de l'immortel Jupiter, adieu, la tâche d'Othello est finie.
Iago, est-ce possible, monseigneur?
Othello, misérable, tu me prouveras que ma bien-aimée est une putain. N'y manque pas, n'y manque pas. Donne-moi la preuve oculaire ou bien, saisissant Iago à la gorge, par le salut de mon âme éternelle, il eût mieux valu pour toi être né chien que d'avoir à répondre à ma fureur en éveil.
Iago, en est-ce donc venu là?
Othello, fais-moi voir la chose, ou du moins prouve-la-moi, si bien que la preuve ne porte ni charnière ni tenon auquel puisse s'accrocher un doute. Sinon, malheur à ta vie.
Iago,
mon noble maître.
Othello, si tu la calomnies et si tu me tortures, cesse à jamais de prier. Renonce à toute conscience, accumule les horreurs sur la tête de l'horreur. Commets des actions à faire pleurer le ciel et à épouvanter toute la terre. Tu ne pourras rien ajouter à ta damnation de plus énorme que cela. Oh, Iago!
Oh, grâce divine! Oh, ciel, défendez-moi! Êtes-vous un homme? Avez-vous une âme ou quelque sentiment? Dieu soit avec vous. Reprenez-moi mon emploi. Oh, misérable niais, qui a vécu pour voir ton honnêteté transformée en vice. Oh, monde monstrueux, sois témoin, ah, monde, qu'il y a danger à être franc et honnête. Je vous remercie de la leçon, et à l'avenir, je n'aimerai plus un seul ami, puisque l'amitié provoque de telles offenses.
Il va pour se retirer.
Othello. Non, demeure, tu dois être honnête.
Iago. Je devrais être raisonnable, car l'honnêteté est une folle qui s'aliène ce qu'elle sert.
Othello. Par l'univers, je crois que ma femme est honnête et crois qu'elle ne l'est pas. Je crois que tu es propre et crois que tu ne l'es pas. Je veux avoir quelques preuves. Son nom, qui était pur comme le visage de Diane, est maintenant terni et noir comme ma face. S'il y a encore des cordes ou des couteaux, des poisons ou du feu, ou des flots suffocants, je n'endurerai pas cela. Oh, avoir la certitude.
Iago. Je vois, monsieur, que vous êtes dévoré par la passion, et je me repens de l'avoir excité en vous.
Vous voudriez avoir la certitude?
Othello.
Le voudrais-je?
Non,
je le veux.
Iago. Vous le pouvez? Mais comment? Quelle certitude vous faut-il, monseigneur? Voudriez-vous assister, bouche béante, à un grossier flagrant délit, et la regarder saillir par l'autre?
Othello. Mort et damnation.
Oh. Iago. Ce serait une entreprise difficile, je crois, de les amener à donner ce spectacle. Au diable, si jamais ils se font voir sur l'oreiller par d'autres yeux que les leurs. Quoi donc? Quelle certitude voulez-vous? Que dirais-je? Où trouverez-vous la conviction? Il est impossible que vous voyiez cela, fussent-ils aussi pressés que des boucs, aussi chauds que des singes, aussi lascifs que des loups en rute, et les plus grossiers niais que l'ignorance est rendue ivre.
Mais pourtant, je le reconnais, si la probabilité, si les fortes présomptions qui mènent directement à la porte de la vérité suffisent à donner la certitude, vous pouvez la voir.
Othello.
Donne-moi une preuve vivante qu'elle est déloyale.
Iago. Je n'aime pas cet office-là. Mais puisque je suis entré si avant dans cette cause, poussé par une honnêteté et un dévouement stupide, je continuerai.
Dernièrement, j'ai couché avec Cassio et, tourmenté d'une rage de dents, je ne pouvais dormir. Il y a une espèce d'homme si débraillé dans l'âme qu'ils marmottent leurs affaires pendant leur sommeil. De cette espèce est Cassio. Tandis qu'il dormait, je l'ai entendu dire « Suave Desdemona, soyons prudents, cachons nos amours. » Et alors, monsieur, il m'empoignait et m'étreignait la main en s'écriant
Oh, suave créature! Et alors il me baisait avec force, comme pour arracher par les racines des baisers éclos sur mes lèvres. Il posait sa jambe sur ma cuisse, et soupirait, et me baisait, et criait alors « Maudite fatalité qui t'a donné aux morts !»
Othello.
Oh, monstrueux, monstrueux!
Iago.
Non, ce n'était que son rêve.
Othello.
Mais il dénonçait un fait accompli. C'est un indice néfaste, quoique ce ne soit qu'un rêve.
Iago.
Et cela peut donner corps à d'autres preuves qui n'ont qu'une mince consistance.
Othello.
Je le mettrai tout en pièces.
Iago.
Non, soyez calme. Nous ne voyons encore rien de fait. Elle peut être honnête encore. Dites-moi seulement, avez-vous quelquefois vu un mouchoir brodé de fraises aux mains de votre femme ?
Othello.
Je lui en ai donné un, comme tu dis. Ça a été mon premier présent.
Iago.
Je ne le savais pas. C'est avec un mouchoir pareil, il est à votre femme, j'en suis sûre, que j'ai aujourd'hui vu Cassio s'essuyer la barbe.
Othello.
Si c'est celui-là.
Iago.
Que ce soit celui-là ou un autre, s'il lui appartient, c'est une nouvelle preuve qui parle contre elle.
Othello.
Oh, si ce gueux du moins avait 40 000 vies, une seule est trop misérable, trop chétive pour ma vengeance. Je le vois maintenant, c'est vrai. Écoute, Iago, tout mon fol amour, je le souffle comme ceci, à la face du ciel. Il a disparu. Surgis, noire vengeance, du fond de ton enfer. Cède, ah amour, la couronne et le trône de ce cœur à la tyrannique haine. Gonfle-toi, mon sein, car ce que tu renfermes n'est que langue d'aspic.
Iago.
Je vous en prie, calmez-vous.
Othello.
Oh, du sang, du sang, du sang!
Iago.
Patience, vous dis-je. Vos idées peuvent changer.
Othello.
Jamais, Iago. De même que la mer Pontique, dont le courant glacial et le cours forcé ne subissent jamais le refoulement des marées, se dirigent sans cesse vers la Propontide et l'Hellespont, de même mes pensées de sang, dans leur marche violente, ne regarderont jamais en arrière. Jamais elles ne reflueront vers l'humble amour, mais elles iront s'engloutir dans une profonde et immense vengeance. Oui, par le ciel de marbre qui est là-haut, au juste respect de ce vœu sacré, j'engage ici ma parole.
Il tombe à genoux.
Iago. Ne vous levez pas encore. Il s'agenouille. Soyez témoin, vous, lumière toujours brûlante au-dessus de nous, vous, éléments qui nous pressez de toutes parts. Soyez témoin qu'ici Iago voue l'activité de son esprit, de son bras, de son cœur, au service d'Othello outragé. Qu'il commande, et l'obéissance sera de ma part tendresse d'âme, quelque sanglant que soient ses ordres.
Il se relève.
Othello. Je salue ton dévouement, non par de vains remerciements, mais par une reconnaissante acceptation. Et je vais dès à présent te mettre à l'épreuve. Avant 3 jours, viens m'apprendre que Cassio n'est plus vivant.
Yeah.
Mon ami est mort. C'est fait à votre requête. Mais elle, qu'elle vive.
Othello.
Damnation sur elle, l'impudique coquine. Oh, damnation sur elle. Allons, éloignons-nous d'ici. Je me retire, afin de me procurer des moyens de mort rapide pour le charmant démon. À présent, tu es mon lieutenant.
Iago.
Je suis vôtre pour toujours.
Il sort.
Scène 4. Devant le château, entre Desdémona, Emilia et le clown. Desdémona au clown.
Drôle, connaissez-vous l'adresse du lieutenant Cassio?
Le clown.
Son adresse? Je n'oserais pas en douter.
Desdémona.
Qu'est-ce à dire, l'ami?
Le clown.
Cassio est soldat. Or, si je doutais de son adresse, il pourrait bien me la prouver par un coup d'estoc.
Desdémona.
Allons, où demeure-t-il? Si je vous indiquais sa demeure, je vous mettrais dedans.
Desdémona.
Quel sens cela a-t-il?
Le clown.
Je ne sais pas où il demeure. Et si j'imaginais un logis en vous disant « il demeure ici ou il demeure là », est-ce que je ne vous mettrais pas dedans?
Desdémona.
Pourriez-vous vous enquérir de lui et obtenir des renseignements sur son compte?
Le clown.
Je vais à ce sujet interroger tout le monde.
Comme au catéchisme.
Mes questions dicteront les réponses.
Desdémona.
Trouvez-le et dites-lui de venir ici. Annoncez-lui que j'ai touché Monseigneur en sa faveur et que j'espère que tout ira bien.
Le clown.
Ce que vous me demandez dans les limites d'une intelligence humaine, Je vais en conséquence essayer de le faire. » Il sort.
Desdemona.
« Où puis-je avoir perdu ce mouchoir, Emilia ?»
Emilia.
« Je ne sais pas, madame. »
Desdemona.
« Crois-moi, j'aimerais mieux avoir perdu ma bourse pleine de crusades. Heureusement que le noble mort a une âme droite et qu'il n'a rien de cette bassesse dont sont faites les créatures jalouses. Sinon, c'en serait assez pour lui donner de vilaines idées. »
Emilia.
« Est-ce qu'il n'est pas jaloux ?»
Desdemona.
« Qui, lui ? Je crois que le soleil sous lequel il est né a extrait de lui toutes ces humeurs-là. »
Emilia.
« Tenez, le voici qui vient. »
Desdemona.
« Maintenant, je ne le laisserai plus que Cassio ne soit rappelé près de lui. »
Entre Othello.
« Comment cela va-t-il, monseigneur ? »
Othello.
« Bien, ma chère dame. »
«
Oh, que de peine à dissimuler !»«
Comment êtes-vous, Desdemona ?»«
Desdemona. »« Bien, mon cher seigneur. » »«
Othello. »«
Donnez-moi votre main. »«
Cette main est moite, madame. » »«
Desdemona. »« Elle n'a pas encore senti l'âge ni connu le chagrin. » »«
Othello. » »«
Ceci annonce de l'exubérance et un cœur libéral. »« Chaude, chaude et moite. »« Cette main-là exige le renoncement à la liberté. » Le jeûne, la prière, une longue mortification, de pieux exercices. Car il y a ici un jeune diable tout en sueur qui a l'habitude de se révolter. C'est une bonne main, une main franche.
Desdemona.
Vous pouvez vraiment le dire, car c'est cette main qui a donné mon cœur.
Othello.
Une main libérale. Jadis, c'était les cœurs qui donnaient les mains. Mais dans nos nouveaux blasons, rien que des mains, pas de cœur.
Desdemona.
Je ne sais rien de tout cela. Revenons à votre promesse.
Othello.
Quelle promesse, Poulette ?
Desdemona.
J'ai envoyé dire à Cassio de venir vous parler.
Othello.
J'ai un méchant rhume opiniâtre qui me gêne. Prête-moi ton mouchoir.
Desdemona.
Voici, monseigneur.
Othello.
Celui que je vous ai donné.
Desdemona.
Je ne l'ai pas sur moi.
Othello.
Non ?
Desdemona.
Non, ma foi, monseigneur.
Othello.
C'est une faute. Ce mouchoir, une égyptienne le donna à ma mère. C'était une charmeresse qui pouvait presque lire les pensées des gens. Elle lui dit que, tant qu'elle le garderait, elle aurait le temps de plaire et de soumettre entièrement mon père à ses amours. Mais que, si elle le perdait, ou en faisait présent, mon père ne la regarderait plus qu'avec dégoût et mettrait son cœur en chasse de fantaisies nouvelles. Ma mère me le remit en mourant et me recommanda, quand la destinée m'unirait à une femme, de le lui donner. C'est ce que j'ai fait. Ainsi, prenez-en soin, qu'il vous soit aussi tendrement précieux que votre prunelle. L'égarer, ou le donner, ce serait une catastrophe qui n'aurait point d'égal.
Desdemona.
Est-il possible ?
Othello.
C'est la vérité. Il y a une vertu magique dans le tissu. Une sibylle qui avait compté en ce monde 200 révolutions de soleil en a brodé le dessin dans sa prophétique fureur. Les vers qui en ont filé la soie étaient consacrés, et la teinture qui le colore est faite de cœurs de vierges momifiées qu'avait conservé Sonar.
Desdemona.
Sérieusement ? Est-ce vrai ?
Othello.
Très véritable. Ainsi, veillez-y bien.
Desdemona.
Plutôt ciel alors que je ne l'eusse jamais vu.
Othello vivement.
Ah ! Pour quelle raison ?
Desdemona.
Pourquoi me parlez-vous d'un ton si brusque et si violent ?
Othello.
Est-ce qu'il est perdu ? Est-ce que vous ne l'avez plus ? Parlez ! Est-ce qu'il n'est plus à sa place ?
Desdemona.
Le ciel nous bénisse.
Othello.
Vous dites ?
Desdemona.
Il n'est pas perdu. Mais quoi, s'il l'était ?
Othello.
Ah !
Desdemona.
Je dis qu'il n'est pas perdu.
Othello.
Cherchez-le. Faites-le-moi voir.
Desdemona.
Je le pourrais, monseigneur, mais je ne veux pas à présent. C'est une ruse pour me distraire de ma requête. Je vous en prie, que Cassio se rappelle.
Othello.
Cherchez-moi ce mouchoir. Mon âme s'alarme.
Desdemona.
Allez, allez, vous ne rencontrerez jamais un homme plus capable.
Othello.
Le mouchoir.
Desdemona.
Je vous en prie, causons de Cassio.
Othello.
Le mouchoir.
Desdemona.
Un homme qui de tout temps a fondé sa fortune sur votre affection, qui a partagé vos dangers.
Othello.
Le mouchoir.
Desdemona.
En vérité, vous êtes à blâmer.
Othello.
Arrière.
Il sort précipitamment.
Emilia. Cet homme-là n'est pas jaloux.
Desdemona.
Je ne l'avais jamais vu ainsi. Pour sûr, il y a du miracle dans ce mouchoir. Je suis bien malheureuse de l'avoir perdu.
Emilia.
Ce n'est pas un an ou deux qui font connaître les hommes. Ils ne sont tous que des estomacs pour qui nous ne sommes toutes que des aliments. Ils nous mangent comme des affamés, et dès qu'ils sont pleins, ils nous renvoient.
Ah, voici Cassio et mon mari.
Entre Cassio et Iago.
Iago.
Il n'y a pas d'autre moyen. C'est elle qui doit le faire.
Et tenez, l'heureux hasard. Allez, importunez-la.
Desdemona.
Eh bien, mon Cassio, quoi de nouveau avec vous?
Cassio.
Madame, toujours ma requête. Je vous en supplie. Faites, par votre vertueuse entremise, que je puisse revivre en recouvrant l'affection de celui à qui je voue respectueusement tout le dévouement de mon cœur. Oh, plus de délai! Si ma faute est d'une espèce si mortelle que mes services passés, ma douleur présente, mes bonnes résolutions pour l'avenir, soient une rançon insuffisante à nous réconcilier, que je le sache du moins. Et cette certitude aura encore pour moi son avantage. Alors, je me draperai dans une résignation forcée, et j'attendrai, cloîtré dans quelque autre carrière, l'aumône de la fortune.
Desdemona.
Hélas, trois fois loyal Cassio, mon intercession détonne pour le moment. Mon seigneur n'est plus mon seigneur, et je ne le reconnaîtrais pas s'il était aussi changé de visage que d'humeur. Puissais-je être protégé par tous les esprits sanctifiés comme vous avez été défendu par moi. J'ai même provoqué le feu de sa colère par mon franc-parler. Il faut que vous patientiez encore un peu. Ce que je puis faire, je veux le faire, et je veux pour vous plus que je n'oserais pour moi-même. Que cela vous suffise.
Iago.
Est-ce que monseigneur s'est irrité?
Emilia.
Il vient de partir à l'instant, et certainement dans une étrange agitation.
Iago.
Lui s'irriter?
J'ai vu le canon faire sauter en l'air les rangées de ses soldats, et comme le diable, lui arracher de ses bras même son propre frère. Et je me demande s'il peut s'irriter.
C'est quelque chose de grave, alors.
Je vais le trouver. Il faut que ce soit vraiment sérieux s'il est irrité.
Desdemona.
Je t'en prie, va.
Iago sort.
À coup sûr, c'est quelque affaire d'État. Une nouvelle de Venise, ou quelque complot tout à coup déniché ici, dans Chypre même, et à lui révélé, aura troublé son esprit limpide. En pareil cas, il est dans la nature des hommes de quereller pour de petites choses, bien que les grandes seules le préoccupent. C'est toujours ainsi. Qu'un doigt vous fasse mal, et il communiquera même aux autres parties saines le sentiment de la douleur. D'ailleurs, songeons-y, les hommes ne sont pas des dieux. Nous ne devons pas toujours attendre d'eux les prévenances qui sont de rigueur au jour des noces. Gronde-moi bien, Emilia. J'ai osé, soldat indiscipliné que je suis, l'accuser dans mon âme d'un manque d'égard. Mais maintenant, je trouve que j'avais suborné le témoin et qu'il est injustement mis en cause.
Emilia.
Priez le ciel que ce soit, comme vous pensez, quelque affaire d'État, et non une idée, une lubie jalouse qui vous concerne.
Desdemona.
Malheureux le jour où cela serait. Jamais je ne lui en ai donné de motif.
Emilia.
Mais les cœurs jaloux ne se paient pas de cette réponse. Ils ne sont pas toujours jaloux pour le motif. Ils sont jaloux parce qu'ils sont jaloux. C'est un monstre engendré de lui-même, né de lui-même.
Desdemona.
Que le ciel éloigne ce monstre de l'esprit d'Othello.
Emilia.
Amen, madame.
Desdemona.
Je vais le chercher. Cassio, promenez-vous par ici. Si je le trouve bien disposé, je plaiderai votre cause, et je ferai tout mon possible pour la gagner.
Cassio.
Je vous remercie humblement, votre grâce.
Sortent Desdemona et Emilia, entre Bianca.
Bianca.
Dieu vous garde, ami Cassio.
Cassio.
Vous dehors? Quelle raison vous amène? Comment cela va-t-il, ma très jolie Bianca?
Sur ma parole, doux amour, j'allais à votre maison.
Bianca.
Et moi, j'allais à votre logis, Cassio.
Quoi?
Toute une semaine loin de moi, 7 jours et 7 nuits, 160 heures. Et les heures d'absence d'un amant sont 60 fois plus longues que les heures du cadran. Oh, le pénible calcul.
Cassio.
Pardonnez-moi, Bianca. Des pensées de plomb ont pesé sur moi tout ces temps-ci. Mais dès que j'aurai plus de loisirs, je vous paierai les arrérages de l'absence.
Chère Bianca, faites-moi un double de ce travail.
Il lui donne le mouchoir de Desdemona.
Bianca.
Oh, Cassio, comment ceci est-il entre vos mains? C'est quelque gage d'une nouvelle amie? Je sens maintenant la cause de cette absence trop sentie. En est-ce déjà venu là?
C'est bon,
Cassio.
Allons, femme, jetez vos viles suppositions à la dent du diable de qui vous les tenez. Vous voilà jalouse à l'idée que c'est quelque souvenir de quelque maîtresse.
Non, sur ma parole, Bianca.
Bianca.
Eh bien, à qui est-il?
Cassio. Je ne sais pas, ma charmante. Je l'ai trouvé dans ma chambre. J'en aime le travail. Avant qu'il soit réclamé, comme il est probable qu'il le sera, je voudrais avoir le pareil. Prenez-le, copiez-le et laissez-moi pour le moment.
Bianca. Vous laissez? Pourquoi?
Cassio.
J'attends ici le général, et ce n'est pas une recommandation désirable pour moi qu'il me trouve en compagnie féminine.
Bianca.
Et pourquoi, je vous prie?
Cassio.
Ce n'est pas que je ne vous aime pas.
Bianca.
Mais c'est que vous ne m'aimez point. Je vous en prie, reconduisez-moi quelque pas, et dites-moi si je vous verrai de bonne heure ce soir.
Cassio.
Je ne puis vous reconduire bien loin. C'est ici que j'attends. Mais je vous verrai bientôt.
Bianca.
C'est fort bien. Il faut que je cède aux circonstances.
Ils sortent.